Bonjour à vous et soyez les bienvenus à bord. Aujourd'hui, nous écoutons la seconde partie de l'entretien qu'a bien voulu m'accorder Fanny Vicens. Ce second volet portera sur l'aspect le plus contemporain de son œuvre. Musique d'aujourd'hui, développant l'harmonie, la structure contemporaine, mais aussi une certaine façon d'envisager l'environnement du musicien. De tout cela et d'autres choses, Fanny Vicens nous entretient avec la science, la clarté d'esprit et la hauteur de vue qui sont les siennes. Je débute cet entretien par une question concernant l'intitulé de son CD, Turn On, Tune In, Drop Out. D'abord, comment le traduirait-on ?
Je le traduis pas vraiment, mais ça pourrait dire en gros allumer, accorder, décoller, quelque chose comme ça. Mais c'est un titre en fait d'un ouvrage d'un Américain, Timothy Leary, qui était un peu un avant-gardiste qui a créé une sorte de courant de pensée, on va dire, psychédélique, et lié à la substance de produits illicites. Enfin, il y a quelque chose d'un peu de l'ordre du voyage, on va dire, du voyage dans l'inconscient, dans cette notion de lâcher prise, en fait. Et j'aimais bien cette couleur un peu... Enfin, c'est surtout le titre de l'œuvre de Alexander Vaire, qui clôt le disque, et c'est lui qui m'a d'ailleurs fait connaître ce titre, en fait. Et j'aimais bien cette idée de voyage psychédélique au cœur du son de l'instrument, qui est complètement transfiguré par son rapport à l'électronique.
Oui, de s'accorder à quelque chose de nouveau et de s'y abandonner. Il y a un peu ça dans ce titre.
Voilà, et exactement, il y a cette notion de lâcher prise, d'immersion dans le son qui va complètement nous submerger comme une vague, comme ça, qu'on ne peut pas arrêter.
Alors, rares sont les CD classiques ou même contemporains qui soient à ce point proches du réel. C'est comme une plongée dans le cœur d'aujourd'hui. Vous abolissez, me semble-t-il, une sorte de réserve diplomatique qu'observaient jusqu'ici les musiciens face à la marche du monde. Et cela avec beaucoup de panache. Il y a chez vous une sorte d'incitation à assumer fortement le présent en musique. Est-ce que c'est le fait particulier de ce CD ou bien est-ce une chose que vous pourriez poursuivre, faire évoluer?
Non, je pense que c'est quelque chose qui me tient à cœur, qui est dans les missions que je me donne, c'est quand même de défendre la musique du présent, de travailler avec les créateurs et les créatrices d'aujourd'hui, de l'amener vers tous les publics. Ça, je pense que c'est très important. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup, oui, cet ancrage dans le présent, dans le social. Mais j'aime bien aussi défendre les musiques qui, on va dire, transfigurent ou subliment un peu le timbre de l'accordéon. Étant pianiste et ayant basé tout mon parcours sur cette dualité, ce conflit parfois, et aussi cette complicité qu'il peut y avoir entre le piano et l'accordéon, j'aime bien du coup les musiques qui vont aller au cœur de l'instrument, qui vont faire entendre un peu les entrailles de l'accordéon. Mmh. Beaucoup des musiques d'aujourd'hui, en fait, participent à ça, on va dire, dans leur rapport à l'instrument. Il y a quelque chose souvent d'assez brut. Dans les musiques de ce début du XXIe siècle, là où dans les musiques des années 60-70, il y avait peut-être une recherche structurelle plus grande, en fait. Déjà, il y a eu toute cette sortie du monde tonal, donc ça a été d'abord peut-être par une recherche plus basée sur le système musical, et puis de plus en plus, en fait, je crois qu'on est dans une incarnation du son directement liée au geste instrumental aujourd'hui, donc finalement ça me convient assez bien puisque j'aime bien être dans ce rapport charnel, fusionnel avec mon instrument. Et dans ce disque-là, je crois que chacune des compositions, elles sont à la fois très différentes, à la fois dans le rapport de l'écriture de l'instrument, dans le rapport de l'instrument et l'électronique. Il y a des univers complètement délirants et très différents les uns des autres.
Oui.
Mais elles ont ça en commun de rechercher cette friction entre l'accordéon et l'électronique. Parfois, l'électronique et l'accordéon fusionnent vraiment en quelque chose de très subtil, parfois c'est plus électrisant et plus ça fait un peu des étincelles dans certaines pièces, et je pense que c'est ça qui est intéressant aussi de montrer ce parcours au travers de ces différentes œuvres.
Oui, c'est vrai qu'il y a, je trouve, dans toutes les œuvres de CD comme un fil qui les relie toutes entre elles. On écoute par exemple Cantiga, Something Out of Apocalypse, c'est instant suspendu comme une suite, c'est ce que j'ai fait. Chaque composition diffère de l'autre, mais tout ça s'imbrique, s'emboîte, comme les parts d'un même monde. Il y a une sorte de compatibilité entre les œuvres, je dirais, non ?
Ben, j'ai essayé, en tout cas, j'essaie toujours dans les disques auxquels je travaille, c'est de quand même créer un voyage d'écoute pour l'auditeur, de pas seulement cataloguer différentes pièces. Mmh. Après, c'est deux pièces qui ont été écrites... c'est vrai que la plupart ont été écrites pour moi, donc je pense qu'il y a peut-être quelque chose que l'on retrouve là-dedans quand même, dans le travail collaboratif que je fais avec les compositrices et les compositeurs. Mais j'essaye d'articuler les pièces pour qu'on amène... Parfois, il y a des ruptures, des moments de rupture, des moments de surprise. Mais aussi une forme de continuité, même si les pièces ont été écrites à des moments fort différents. Je crois qu'il y a quand même un voyage de l'écoute. Cantiga, d'ailleurs, fait entendre des mélodies du Moyen-Âge espagnol, et ça nous fait rentrer en douceur dans le disque. Et puis petit à petit, l'électronique prend une part de plus en plus grande. C'est vrai qu'entre les pièces, il y a peut-être une forme de hasard, mais il y a un rapport dans certaines pièces à la voix, au texte. On entend des voix dans la pièce de Pierre Jodlowski, Apocalypse Now, des dialogues du film Apocalypse Now, voilà. Enfin, il y a aussi une sorte de mantra qui est scandé dans la dernière pièce du disque, la pièce d'Alexander Vaire. Il y a aussi des voix dans Kickapoo de Jérôme Combier. Il y a ce rapport peut-être à des mondes un peu fantomatiques, des paysages, des pays lointains. Dans Kickapoo, c'est l'univers un peu soviétique. Dans la pièce de Pierre Jolovsky, c'est le film Apocalypse Now, justement, de Coppola. Dans la pièce de Nuria Jiménez, il y a une chanson catalane qui apparaît en filigrane, alors que qu'on ne reconnaît pas, hein, mais qui est un petit peu, on va dire, nourrie les bribes mélodiques de cette pièce. Et puis chez Jérôme Combier, de nouveau, il y a une chanson russe qui apparaît à la fin. Donc, il y a comme des choses en filigrane qui vont relier les pièces les unes aux autres, mais qui n'est pas du fait finalement des compositeurs, puisque chacun a écrit sa pièce sans avoir connaissance des autres, mais qui peut-être dans l'agencement des pièces crée quand même un peu un fil rouge dans l'écoute.
Alors, question peut-être un peu technique, mais il en faut. Les notes de CD vous créditent à l'accordéon, bien sûr, mais aussi à l'accordéon microtonal XMP. Alors, peut-être pourriez-vous expliquer un peu pour nos auditeurs, auditrices, ce qu'est cet instrument. Et tout d'abord, quelle subdivision de ton pouvez-vous y atteindre?
Alors, c'est un accordéon que j'ai développé avec mon partenaire Jean-Étienne Sauty depuis 2014, l'accordéon microtonal Xamp. Xamp, c'est notre nom de scène, notre nom de duo,
Oui.
une sorte de. Voilà, c'est le nom aussi qui porte le projet de l'accordéon microtonal. C'est un accordéon qui permet de jouer tous les quarts de ton. Donc, c'est-à-dire que l'octave va être subdivisée non plus en 12 demi-tons, mais en 24 quart de ton, mais qui permet surtout aussi des alliages de timbres un peu nouveaux et inouïs, parce qu'on peut, par le jeu des registres de l'instrument, l'accordéon a un certain nombre, une quinzaine de registres, alors c'est beaucoup moins que l'orgue, mais c'est quand même, ça permet quand même
C'est ça,
de donner.
c'est un système de registration qui met en marche la microtonalité.
Oui, on a confié le. Alors on a conceptualisé l'instrument, mais on a confié l'accord à notre accordeur Philippe Humbert, qui est pour nous quelqu'un de très important, qui nous a permis de réaliser ce rêve-là. En fait, la quinzaine de registres de l'accordéon est constituée de différentes voix de base, un peu comme à l'orgue, le 16 pieds, le 8 pieds, le 4 pieds, voilà. C'est un nombre beaucoup plus restreint, mais qui permet toutefois voilà, une quinzaine de combinaisons différentes. Et sur les quatre voix de base, deux ont été réaccordées en quart de ton. Et en fait, du fait des jeux de combinaisons, ça permet à la fois de continuer à jouer en demi-ton, d'avoir des échelles en quart de ton et des harmonies en quart de ton, mais aussi d'avoir neuf registres qu'on appelle mixtures, qui permettent en fait... qui ont des sonorités parfois très électroniques, ce qui permet aussi de tendre vers ce monde électronique et qui permettent de mélanger les timbres et de faire apparaître finalement des phénomènes qui étaient déjà dans l'accordéon, mais peut-être qui étaient un peu cachés, des phénomènes de battement, des phénomènes de son différentiel, une richesse spectrale, une richesse harmonique et des phénomènes sonores en fait qui sont propres à l'accordéon, comme si ces registres réaccordés, ces registres microtonales venaient exacerber en fait un potentiel sonore de l'instrument. En fait, on a vraiment pensé ça comme un instrument augmenté. XAMPP, c'est Extended Accordion.
D'accord.
L'acronyme XAMPP vient de cette idée-là d'élargir, d'augmenter les possibles de l'accordéon, mais toujours de partir de ce qui fait le cœur, la chair en fait, de l'instrument, ce qui est caché au cœur des hanches. Et d'ailleurs, en musique baroque, c'est aussi ce qu'on cherche finalement à mettre à jour, hein, sans, au contraire, sans déformer l'instrument, mais plutôt en l'élargissant.
Alors, les recherches sur la tonalité, on le sait, ont débuté très tôt. On sait qu'au Moyen Âge, des gens ont concevé qu'il puisse y avoir une autre musique à aller chercher au-delà des tons et même du perceptible. On peut aussi, bien sûr, évoquer Wisniewski, Charles Ives. Pouvez-vous nous faire l'historique de votre propre intérêt pour l'exploration tonale?
Donc mon intérêt pour l'exploration tonale, sonore, il est venu petit à petit au cours du temps. Dans cette recherche en fait de comprendre ce qui est l'essence de l'accordéon, c'est ça qui m'a amené à vouloir aller plus loin et finalement la microtonalité est venue compléter cette recherche. L'accordéon microtonal Xamp, on l'a développé donc ensemble avec Jean-Étienne Sauty, avec au départ peut-être des désirs différents ou motivations différentes, mais avec un projet sonore en commun. J'en reviens à Hougonaut, mais lorsque j'étais son étudiante, entre mes 18 et mes 20 ans, dans sa classe à Trossingen, il me disait souvent l'accordéon en France, en musique contemporaine, s'il est moins représenté aujourd'hui, donc c'était vers 2005, hein. Il me dit, c'est parce qu'en France, c'est la musique spectrale, et la musique spectrale inclut les micro-intervalles, et l'accordéon ne peut pas jouer les quarts de ton. En fait, il faut savoir que Hugonot était très ami avec Gérard Griset, ils ont étudié ensemble l'accordéon. dans les années 60 à Trossingen, et Hugonot a été le créateur des parties d'accordéon des œuvres de Gérard Griset. Et il m'a dit, si Gérard a arrêté d'utiliser l'accordéon dans ses œuvres, c'est parce qu'il ne pouvait pas jouer les quarts de ton. Il l'aurait adoré, mais il n'y avait pas d'instrument fait pour. Donc cette phrase, c'est vrai que cette conversation, elle restait dans mon souvenir. Puis il y a eu la rencontre avec Jean-Étienne Sauty. Lui, il était plus passionné par l'univers musical de Stockhausen, l'univers du piano préparé, le fait de modifier son instrument pour en tirer de nouvelles sonorités. Et finalement, c'est autour de la transformation de notre instrument avec les quarts de ton que s'est cristallisé le projet. Mais c'était avant tout, finalement, on s'est rendu compte que ce projet-là, l'accordéon microtonal Xambe, nous permettait d'aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire à la fois d'avoir accès à certaines musiques microtonales, comme celle d'Ivan Vishnegradsky, qui a été un pionnier au début du XXe, mais d'aller aussi dans des musiques d'exploration du son. Et il y a eu une rencontre très importante avec la compositrice Pascale Criton, qui a été disciple de Vishnegradsky, qui est très active aujourd'hui. Et qui, alors ça, c'est vrai que ça permet de tirer un lien dans l'histoire de la musique incroyable, parce que Vishnegradsky, il est né à la fin du 19e siècle. Pascale, elle est active aujourd'hui en 2022. Mais chez elle, en fait, elle nous a ouvert à une exploration qui est beaucoup plus sur cette écoute sensible du son, sur la vie interne du son. Et finalement, les quarts de ton, c'est juste une porte d'entrée, comme le feraient aussi les huitièmes, les douzièmes de ton. C'est finalement une manière de rentrer plus finement dans toutes les nuances du son et de révéler ce qui est déjà contenu dans le son, mais de le révéler de manière plus flagrante en termes de battements, de vibrations spéciales. Et donc c'est vrai que ça a permis, donc l'accordéon microtonal Xambe, de réaliser certains de nos rêves d'exploration du son, qui étaient au départ pas forcément les mêmes avec Jean-Étienne, mais qui ont une direction tout à fait commune.
Thank you.
Alors il y a dans ce CD des instants d'une beauté saisissante. Or le mot de beauté fut rejeté de beaucoup de compositeurs contemporains. Pourtant je n'ai jamais cessé de croiser de la beauté, il y en a chez Dutilleux, chez Oana. Même Stockhausen, qui était pourtant si abrupt, écrivait un duo de harpe d'une beauté certaine. Comment vous situez-vous vous-même quant à cette question du beau en musique ?
Alors, vaste question, très intéressante. Enfin, je crois qu'aujourd'hui, enfin, oui, c'est vrai que le débat a existé, peut encore exister, mais Je crois qu'on a énormément de compositrices et de compositeurs qui sont dans une approche très hédoniste du son. Moi, j'ai toujours, enfin, moi, je trouve bien sûr une grande beauté à la musique d'aujourd'hui, mais bien sûr, la beauté, elle est plurielle. Elle peut aussi nous déranger parfois. Le beau, c'est pas le joli, quoi. Enfin, le beau,
Oui.
c'est aussi quelque chose qui dépasse cela. Donc, il y a des beautés dérangeantes. Il y a des choses qui peuvent nous accrocher, mais peut-être pour ensuite nous bousculer et mieux nous émouvoir. Donc, moi, j'aime me laisser déranger par certaines musiques, mais ça m'empêche pas aussi de me laisser émouvoir. Et voilà, j'aime croire en cet aspect, en l'accès à différentes formes de beauté qui sont bien entendu parfois éloignées des canons de la musique des siècles qui nous ont précédés, mais qui sont pas toujours dans une forme de rupture, qui sont aussi dans une continuité. Il y a aussi des œuvres de la Renaissance qui peuvent nous heurter, en fait, qui
Oui,
sont
oui.
fort éloignées de nos oreilles. Il y a aussi des musiques d'autres cultures. En fait, c'est vrai que pour moi, la musique, il y a quelque chose d'universel, mais c'est aussi lié à nos habitudes d'écoute, en fait, à notre culture, ce qu'on va définir par beau et pas beau. Donc, bien sûr, chacun avec sa sensibilité va s'approprier ces musiques. Et donc, en fait, c'est quand même formidable que ce soit aussi un sujet de débat, parce que ça permet de toujours se remettre en question.
Oui. Est-ce que vous, une question toute simple, est-ce que vous allez continuer l'expérience de l'instrument plus électronique?
Oui, je pense que je vais être amenée à le faire, parce que c'est une des formes de concert que j'apprécie. J'ai l'impression, moi, que ça m'ouvre à une forme de nouvelle virtuosité. J'aime bien ça. Mais ce que j'aime, enfin, ce que je crois être représentatif de mon parcours, c'est d'être un peu touche à tout. Donc, j'aime bien jouer, être parfois avec orchestre. C'est ce qui est une autre forme de complicité, de duel, de virtuosité. J'aime beaucoup la musique de chambre. Et puis, surtout, moi, je ne peux pas me résoudre à ne pas jouer les musiques anciennes, à continuer à toucher encore mon piano, même si je joue un peu moins en concert en tant que pianiste. J'ai quand même quelques projets au piano.
Ah, très bien.
Donc des projets, notamment le voyage d'hiver avec le ténor Xavier de Lignerolles qu'on va commencer à faire tourner la saison prochaine, et où on va proposer justement une interprétation au piano et aussi une à l'accordéon selon les lieux. Donc oui, je pense que jouer avec électronique, je vais continuer à le faire, mais c'est pas le seul projet qui est en cours. Il y aura aussi un projet à 8 accordéons l'année prochaine qu'on va porter avec Jean-Étienne Sotty, puisque notre duo Xamp va peu à peu s'élargir à un collectif qui est nommé Espace Xamp et qui est tourné vers les plus jeunes, enfin vers des jeunes accordéonistes diplômés de grands conservatoires français et européens, en l'occurrence l'EMU de Lausanne où j'enseigne, le Conservatoire de Paris, l'École
De vos
supérieure de
élèves,
Dijon.
donc.
Voilà, certains aiment, mais pas que. Il y a aussi, on est aussi allé vers des gens qui nous interpellaient dans leur pratique, des jeunes accordéonistes, enfin un peu plus jeunes que nous, on va dire, qui ont entre 25 et 30 ans, et avec qui on avait envie de travailler, qui nous interpellaient par leur curiosité, leur ouverture artistique. Donc il y a des anciens élèves, mais pas seulement. Et donc ça, c'est un des grands projets qui est prévu pour l'année 2023. Voilà, qu'on a hâte de faire connaître
Vous êtes
au public.
également une musicienne d'ensemble. Bon, moi, je connais l'ensemble Cairn, mais il y en a beaucoup d'autres, je crois. Que vous apporte cette discipline et le travail de l'ensemble?
Alors, l'ensemble Cairn, j'ai la grande chance et la grande joie d'en être un des membres, en fait, hein, de faire partie du noyau des musiciens, donc ce qui m'amène à travailler vraiment très régulièrement, plusieurs fois dans l'année avec eux. Et j'aime ça parce que ça me permet de faire de la musique de chambre dans plein de formations, d'être toujours, d'être, de découvrir de nouvelles œuvres. L'ensemble Cairn, on joue souvent aussi avec d'autres types de médiums, c'est-à-dire beaucoup aussi avec la vidéo, avec le concert lecture, le spectacle vivant, la danse contemporaine. Donc ça, c'est vraiment passionnant pour moi qui aime tout ce genre d'aventure voilà, vivante sur scène. Et puis aussi de jouer de manière dirigée. Parce que comme je disais, je crois, en tout début d'entretien, l'accordéon n'est pas un instrument d'orchestre. En revanche, c'est un instrument d'ensemble. Parce que dans tous les ensembles contemporains, on rencontre souvent l'accordéon. Donc ça m'a permis de jouer avec aussi plein d'ensembles partout en Europe. Et j'aime bien aussi cette forme de métier-là, qui est d'être à son pupitre dans l'ensemble, avec un chef qui dirige lorsque les projets font appel à un plus grand nombre d'instrumentistes. Et qui nécessite une direction. On est à la fois tous solistes et à la fois constitutifs d'un ensemble. Donc c'est quelque chose que j'affectionne beaucoup en plus des activités solistes, en plus de la musique de chambre. Je continue à préserver une petite part pour ces activités-là d'ensemble. Et je trouve que c'est vraiment constitutif du métier de l'accordéoniste contemporain d'aujourd'hui, en fait. Donc
Oui,
j'ai aussi à
puis
cœur
ça permet
de
d'entendre aussi d'autres choses de l'accordéon. L'accordéon qui accompagne, c'est quelquefois un murmure, mais une présence latente par en dessous, mais qui est incroyable. Ça a une
Ah oui,
puissance d'évocation, c'est incroyable.
vous touchez vraiment là quelque chose de très juste. Et puis, pour les compositeurs, c'est un ingrédient tellement essentiel dans l'orchestration d'aujourd'hui, parce que ça permet de, comme aucun autre instrument, de fusionner les timbres, en fait, de créer du lien entre les vents et les cordes, d'avoir des dynamiques extrêmes dans un ambitus aussi. Extrême, puisque l'accordéon a le même ambitus qu'un piano, par exemple. Et puis c'est cet instrument à la sonorité tellement plastique et tellement mouvante, et ça permet de faire beaucoup de choses pour les compositeurs lorsqu'ils le mettent dans l'ensemble. C'est vrai.
Fanny Vicens, il va être malheureusement le temps de clore cette émission. On fait des gestes désespérés de l'autre côté. Je crois que je vais me faire arracher les oreilles. Merci à vous mille et mille fois pour votre gentillesse, votre disponibilité, surtout pour la musicienne que vous êtes. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour tout ce que vous entreprendrez, que je suivrai toujours et dont je ne manquerai pas de parler à nos auditeurs. Si l'envie vous prend un jour de pousser la porte des studios de Radio Grand Ciel, avec votre accordéon par exemple, vous y serez toujours la bienvenue. Alors au plaisir de vous revoir et de vous entendre à nouveau. Merci encore.
Merci beaucoup à vous pour la richesse de votre entretien, de vos questions. C'était un grand plaisir de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui.
Voilà, et si ça vous dit, je vous laisse prendre congé toute seule comme une grande de nos auditeurs de Radio Grand Ciel.
Merci beaucoup. Alors, merci aux auditrices et aux auditeurs pour leur curiosité, et puis au plaisir d'échanger un jour à l'issue d'un concert peut-être.
Voilà. Au revoir.
Au revoir.
Thank you.
Thank you.